Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Kieran Gessel, réalisée par Luc-Jean Reynaud, à la prise de son Jean-Frédéric. Le MEDEF ne manque pas d'ambition. L'organisation patronale publie ce mercredi une longue liste de propositions façon programme présidentiel, lesquelles mises bout à bout permettraient de créer 1 million d'emplois en 5 ans. Parmi celles-ci, l'autorisation de la recherche sur l'exploitation des gaz de schiste. Pour le MEDEF, comme pour de nombreux acteurs du monde économique, la France ne peut plus se permettre de laisser de côté une telle richesse potentielle. Il faut donc explorer notre sous-sol pour pouvoir, le cas échéant, l'exploiter. Cette question est pourtant censée avoir déjà été réglée. La loi du 13 juillet 2011, votée sous la précédente majorité, a interdit la fracturation hydraulique utilisée pour l'extraction de ces gaz. Interdiction confirmée et renforcée par François Hollande. « Tant que je suis président », promettait-il le 14 juillet 2013, « il n'y aura pas d'exploration de gaz de schiste ». Alors visiblement, cela n'aura pas suffi à mettre un terme au débat. Il est vrai qu'à mesure que le temps passe, on peut supposer que les retours d'expérience aux États-Unis, au Canada, en Pologne, sont porteurs d'informations plus précises quant aux avantages et aux méfaits de ces hydrocarbures non conventionnels. En gaz de schiste, sommes-nous mieux armés pour décider ? C'est notre sujet du jour. Et deux invités pour en débattre ce soir. Christine Le Bihan-Graff, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate associée au cabinet Depardieu Brocas Maffei. Vous êtes passée par la direction de la Commission de régulation de l'énergie. C'était de 2008 à 2011. La Commission de régulation de l'énergie, c'est une autorité indépendante qui est chargée de veiller au bon fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz en France. Vous étiez membre du groupe de travail de l'Institut Montaigne qui a publié il y a quelques semaines de cela, c'était au mois de juin me semble-t-il, « Gaz de schiste, comment avancer ?» C'est un rapport que l'on peut télécharger assez facilement en se rendant sur le site de l'Institut Montaigne. Pour discuter avec vous ce soir, Sylvain Lapoix, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste indépendant, vous avez notamment travaillé pour OVNI, pour Marianne.fr. Vous publiez aux éditions Futuropolis avec le dessinateur Daniel Blancou, Énergies extrêmes. Rappelez-moi le titre du bandeau qui s'ajoute à votre BD.
L'arnaque des gaz de schiste.
Voilà, l'arnaque des gaz de schiste. Alors, il faut préciser que peut-être que certaines auditrices et certains auditeurs connaissent déjà un petit peu, en tout cas une partie de ce récit, puisqu'il avait été publié partiellement dans la revue Dessinée. Alors, ce qui vous rapproche l'un et l'autre, on va voir qu'il y a sans doute un certain nombre de divergences par la suite, mais ce qui vous rapproche l'un et l'autre, c'est qu'on peut dire que chacun à votre manière, vous avez essayé d'en savoir davantage sur ce que représentent ces gaz de schiste aujourd'hui, avec donc, je le dis, des méthodes assez différentes. Vous, Sylvain Lapoix, vous avez choisi d'aller sur place en l'occurrence, et c'est comme ça que s'ouvre votre bande dessinée, c'est le Dakota du Nord. On va dire qu'il y a, c'est à la fois un choc visuel et sonore, peut-être même davantage sonore que visuel.
Ben oui, parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi sur les gaz de schiste sans jamais avoir vu concrètement à quoi ça ressemblait, la ruée vers cet or gris, aux États-Unis principalement, puisque c'est évidemment eux qui suscitent tous les fantasmes. Et quand j'ai eu l'occasion de m'y rendre, eh bien, je me suis rendu dans un endroit qui finalement était un peu sous couvert en France, qui est le Dakota du Nord, où on n'exploite pas les gaz, mais les huiles de schiste. Et ça change beaucoup de choses, mais je pense qu'on y reviendra. Et c'est vrai que j'ai passé 2 ans et demi à m'inquiéter surtout et à formuler des doutes et des inquiétudes donc sur la pollution de l'eau. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai réalisé que le principal problème, c'était la pollution de l'air, et c'était notamment du fait des camions, puisqu'il faut des milliers de camions.
C'est pour ça que je parlais de pollution sonore, c'est-à-dire que
c'est cauchemardesque, c'est des départementales qui, du jour au lendemain, au milieu d'une plaine extrêmement monotone, sont transformées en autoroute. Les villes sont, à la moindre averse, repeintes de la couleur de la boue qu'il y a sur leurs roues, et de fait, l'une des premières causes de mortalité dans les communautés qui sont traversées par cette exploitation deviennent les accidents de la route. Et au final, tout ça mis bout à bout m'a amené à une prise de conscience extrêmement violente, et la BD justement a été l'occasion de retranscrire ça sur une touche beaucoup plus sensible, parce qu'au final, quand on dit faisons une exploitation des gaz de schiste, exploitons les gaz de schiste en France ou ne les exploitons pas, ce qu'il faut aussi voir, c'est que concrètement, bah, ça change la vie des gens, et j'ai voulu savoir à quoi ressemblait cette vie à l'ère des gaz de schiste.
Alors vous, Christine, le bilan graphe, ce ne sont pas des choses vues, en tout cas pas vues directement, que vous mentionnez dans ce rapport pour l'Institut Montaigne, mais ce sont des choses entendues. Vous avez auditionné un certain nombre, alors je ne sais pas si on peut parler d'experts, oui, certains sont peut-être experts, beaucoup d'acteurs, a priori d'ailleurs pas beaucoup d'opposants au gaz de schiste.
Alors effectivement, la méthodologie de l'Institut Montaigne, c'était au maximum évidemment de rassembler une documentation qui est extrêmement abondante. Comme vous le savez, c'est un sujet qui passionne. Le gaz de schiste, c'est un sujet qui a l'air technique, mais qui finalement a fait l'objet d'une appropriation démocratique extrêmement rapide. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, il y a beaucoup de positions publiques qui sont évidemment accessibles, donc on n'a pas besoin d'auditionner tout le monde. Et puis parmi les opposants, comme vous les appelez, au rapport, certains ont été effectivement invités à venir et n'ont pas nécessairement toujours souhaité s'exprimer parce qu'ils estimaient qu'ils avaient déjà rendu public leur position.
Moi j'ai quand même l'impression que l'un et l'autre, finalement, vous êtes allé chercher des éléments qui pouvaient vous conforter, vous à l'Institut Montaigne, Christine Le Bihan-Graff, dans le fait qu'il faut y aller, et vous, Sylvain Lapoix, dans le fait que c'est une catastrophe et qu'il vaut mieux éviter.
Alors, si je réponds avant Sylvain, moi je crois franchement que la méthode du rapport, c'est justement de sortir de cette polémique. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, effectivement, le gaz de schiste, ça a été un sujet clivant. Ça a été un sujet clivant sur lequel il y a une position qui est totalement claire, qui a été prise, et qui est très intéressante parce que c'est une position sur l'acceptabilité sociale de l'utilisation d'une technologie. Bon. Cette position, aujourd'hui, elle est prise en 2011. Donc l'idée, c'est pas du tout ni de dire on est pour ou on est contre, ni de dire que le gaz de schiste est une alternative à d'autres énergies. C'est ça l'originalité du rapport, parce que les rapports sur le gaz de schiste, il y en a eu plein. Pourquoi cet énième rapport de l'Institut Montaigne ? Il me semble que l'intérêt de ce rapport, par rapport aux multitudes de rapports déjà écrits sur le sujet, c'est justement de sortir de cette position et de dire que ce à quoi on doit réfléchir, ce n'est pas effectivement à revenir à une position qui serait purement idéologique et purement clivante, mais bien à une position sur comment agir aujourd'hui, après la réflexion, le temps de réflexion que nous avons depuis la loi de 2011.
Remarquez, ça doit vous plaire ça, Sylvain Lapoix, parce que vous dites finalement, pour ou contre le gaz de schiste, c'est une mauvaise manière de poser le débat.
Alors je rebondirai déjà sur ce que vous avez dit avant, parce que je suis pas du tout d'accord. Justement, j'ai essayé d'éprouver au maximum les arguments des scientifiques des gaz de schiste. Si vous comptez dans l'album, on donne principalement la parole à des salariés de l'industrie, à des experts, à des gens qui sont des scientifiques qui, pour leur grande majorité, sont favorables à l'exploitation. Et aller dans le Dakota du Nord, c'était au final vivre avec les gens qui en sont les premiers soutiens. Quand j'étais en Pologne, c'est la même chose. J'ai été rencontrer les personnes qui travaillaient à l'exploitation, qui préparaient l'exploration, qui travaillaient sur ces nouvelles techniques. Et au final, j'ai voulu éprouver jusqu'au bout les arguments des gens qui défendaient les gaz de schiste. Et finalement, pour moi, j'en suis arrivé effectivement à cette conclusion que le gaz de schiste est le faux débat, parce que aujourd'hui les investissements se portent sur les huiles de schiste, les gaz de schiste. Les majors aux États-Unis perdent des milliards, notamment une petite PME familiale que vous connaissez bien qui s'appelle Total, qui a fait une dépréciation d'actifs de 1 milliard d'euros sur l'année 2012 suite à des investissements dans les gaz de schiste. Finalement, les seuls qui s'en sortent un tout petit peu, c'est des entreprises moyennes qui prennent beaucoup de risques, y compris avec l'environnement. Donc moi, mon argument, c'est surtout que les gaz de schiste sont finalement un paravent, non pas pour d'autres choses, mais surtout pour d'autres énergies qui s'exploitent de la même manière, mais qui, en termes climatiques notamment, ont un impact totalement différent. Et je parlais tout à l'heure de pétrole, c'est ça évidemment qui se cache derrière.
Est-ce que ça veut dire que, puisque ce soir on s'intéresse au retour d'expérience et à l'état des connaissances, que pour vous, Sylvain Lapoix, les gaz de schiste finalement ont été surévalués, peut-être sciemment d'ailleurs, enfin, en tout cas c'est ce que vous dites vous dans la BD, et que l'Eldorado qu'on nous annonçait n'est pas au rendez-vous.
Bah, le problème, c'est qu'on a dit les gaz de schiste, formidable, transition énergétique, tout ça. Il n'empêche que les gaz de schiste ont été une extraordinaire opportunité du moment où ils étaient assez peu chers pour être compétitifs. Or là, sur le deuxième semestre de l'année dernière, les États-Unis, le prix du gaz a augmenté assez pour qu'immédiatement ils rebasculent vers une consommation massive de charbon.
Mais parce qu'il y en a trop ou parce qu'il n'y en a pas assez?
Parce qu'il y en a trop, en l'occurrence, et parce que ça a fait baisser les prix. Le seul problème, c'est que, c'est ça tout le paradoxe, en surexploitant les gaz de schiste, on en a mis plus sur le marché, on a fait baisser les cours et on a rendu les gaz de schiste moins rentables. Autrement dit, les gaz de schiste ne sont viables que dans une hypothèse de pétrole cher et que dans une hypothèse, finalement, de pétrole et de gaz rares. Donc, plus le gaz et le pétrole sont rares et plus les gaz de schiste sont rentables, c'est un peu paradoxal.
Bon, alors finalement, Christine Le Billengraf, c'est presque une bonne nouvelle, en tout cas du point de vue des États-Unis, même si le modèle économique n'est pas encore performant. Il y en a des gaz de schiste, il y en a beaucoup, peut-être beaucoup trop d'ailleurs. Enfin, ça dépend des pays, hein, parce que s'agissant de la Pologne, vous le notez d'ailleurs dans le rapport de l'Institut Montaigne, par rapport aux prévisions, il a fallu diviser par 10.
La grande différence, je dirais, entre l'Europe, alors puisque prenons cette comparaison, si vous voulez bien, entre l'Europe et les États-Unis, c'est que sur les États-Unis, on a eu à la fois de l'exploration et de l'exploitation. En Europe, à ce stade, nous avons des évaluations, nous avons des promesses, mais nous avons interdit à la fois l'exploration et l'exploitation. Donc nous ne savons pas quel est l'état de la ressource naturelle potentielle. Par ailleurs, je pense qu'il faut distinguer deux types de pays, me semble-t-il. Hein, les pays pour lesquels l'exploitation est un enjeu politique, géopolitique, d'indépendance énergétique. Vous avez cité la Pologne, l'indépendance vis-à-vis de la Russie est évidemment l'objectif politique majeur. Et aujourd'hui, effectivement, les résultats de l'exploration en Pologne sont plutôt décevants. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont décevantes sur deux ou trois explorations qu'il n'y a pas de ressources. C'est difficile à ce stade de tirer des conclusions. En revanche, s'agissant d'autres pays dont la réglementation environnementale est au moins aussi sévère que celle qui existe en France et qui pourrait avoir des richesses substantielles, il y en a deux qui sont très intéressants. C'est le Royaume-Uni et le Danemark. Et s'agissant du Royaume-Uni et le Danemark, comme vous l'avez relevé sans doute dans le rapport de l'Institut, effectivement, nous avons...
Là, vous dites que ça a plutôt été sous-estimé.
Voilà, ça a plutôt été sous-estimé, notamment au Royaume-Uni. C'est en phase, effectivement, d'exploitation. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a donc, dans un grand pays européen, avec une réglementation complexe sur l'environnement et qui a le même système juridique que le nôtre, un premier retour d'expérience à la fois encadré et à la fois extrêmement attentif aux enjeux environnementaux.
Alors, il faut dire que pour la France, on a aussi des estimations des ressources en gaz de schiste qui seraient dans notre sous-sol. Estimations qui sont compliquées à apprécier parce qu'elles viennent essentiellement des industriels. Pas forcément parce que ce sont des rapports qui sont noyautés par ces derniers, mais aussi parce que d'autres acteurs ont bien du mal justement à essayer d'évaluer ce qu'il y a dans le sous-sol. C'est l'avis de Jacques Pironon que nous avons interrogé pour cette émission. Il est géologue et directeur de recherche au CNRS à Nancy.
Alors on ne se met pas d'accord sur les évaluations des ressources ou des réserves au niveau français, en grande partie parce qu'on ne fait pas de travaux de recherche dans ce sens. Donc la plupart des évaluations sont faites aujourd'hui par les industriels, et c'est tout à fait logique, en effet, qu'ils fassent ce genre d'évaluation, sauf que dans leur stratégie de communication, la manipulation des chiffres, et c'est aussi un peu normal, et pour beaucoup, pour faciliter leurs opérations et leurs demandes de permis, notamment. D'un autre côté, les évaluations aujourd'hui sont faites en grande partie par modélisation numérique, et pas par de la mesure sur le terrain. Donc aujourd'hui, on n'a pas de mesure, on ne sait pas, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quelles sont les teneurs en gaz des formations cibles sur lesquelles on a pu réfléchir, que ce soit dans le sud de la France ou dans le bassin de Paris. On ne déploie pas de technologie pour faire ces mesures et ces évaluations, et donc forcément, nos évaluations aujourd'hui sur la ressource restent très ambiguës.
Voilà, le géologue Jacques Pironon interrogé par Mélanie Chalandon, Sylvain Lapoix. Finalement, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir des données fiables sur les ressources? Alors en France, c'est compliqué, mais ailleurs?
Ailleurs, je prendrais juste un exemple qui est assez édifiant. C'est celui du gisement de Monterey en Californie, qui avait été estimé, alors c'était la moitié de l'Arabie Saoudite, c'était du pétrole, là, pétrole de schiste, la moitié de l'Arabie Saoudite, un truc complètement dingue. Et du jour au lendemain, suite à une contre-analyse, on a fait une chute de 96% dans les ressources estimées. Et le vrai problème, c'est que c'était la même agence qui a fait les deux estimations. Une agence employée par le gouvernement américain pour l'information énergétique. Le problème aujourd'hui qu'on a, notamment notamment avec ces questions-là, c'est qu'effectivement, les ressources géologiques sont très datées. Il faut savoir que, par exemple, sur le bassin du Sud, pour les gaz de schiste, on travaille sur des rapports, enfin, pas moi personnellement, mais les chercheurs travaillent sur des rapports qui datent pour certains des années 50, voire des années 30, dans le bassin d'Alès. Donc, on est effectivement sur des estimations très basses. Le vrai problème que ça pose, c'est que, concrètement, l'exploration coûte extrêmement cher. Un gisement d'exploration, ça prend, ça peut prendre de 4 à 5 ans et ça coûte plus de 10 millions de dollars.
Moi, mais quand... ce que vous dites dans la bande dessinée Sylvain Lapois, c'est que de toute manière, même les industriels savent déjà que les estimations ont été largement justement surestimées et qu'en fait, c'est une instrumentalisation de ces gisements pour des buts qui sont plus politiques. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est quoi ? En gros, c'est de recrédibiliser les énergies fossiles et par là même, de décrédibiliser les énergies renouvelables.
Bah, c'est-à-dire que y a un phénomène assez net, c'est que déjà d'une part, il y a aussi un enjeu financier. Il y a énormément d'entreprises américaines qui ont valorisé leurs actifs sur la base d'estimations de production qui n'ont jamais été avérées. Il y a des enquêtes du gendarme des marchés américains, notamment sur Chesapeake Energy, le numéro 3 des gaz de schiste aux États-Unis, qui avait en gros vendu des futures, c'est-à-dire une production future de gaz qu'elle n'a jamais pu honorer. Et du coup, bah, il y a eu une enquête parce qu'ils ont gonflé en donnant des mauvaises estimations. Après, sur le plan politique, effectivement, il y a une recrédibilisation. Et aujourd'hui, on voit des discours qui, hier, n'auraient jamais été possibles, comme par exemple des discours de certains dirigeants des entreprises gazières et pétrolières qui disent que l'aide apportée aux énergies renouvelables en Europe distord la concurrence en défaveur des hydrocarbures. Et ça, malgré les objectifs climatiques, ce qui est quand même assez incroyable d'un point de vue politique, même pour des entreprises énergie.
J'ai relevé cette phrase, hein, les gaz de schiste sont un cheval de Troie pour faire croire à l'opinion que les énergies fossiles ne doivent surtout pas être abandonnés. C'est ça que vous essayez de nous vendre à l'Institut Montaigne, Christine de Biangraff, c'est-à-dire vive les énergies fossiles et oublions au moins momentanément les énergies renouvelables.
Je ne sais pas si je cherche à vous vendre quelque chose. Je ne crois pas.
Un petit peu quand même le rapport. Vous l'avez remis à qui d'ailleurs le rapport ?
Alors le rapport, il a été effectivement discuté au sein de l'Institut Montaigne. Et puis il est largement communiqué. Il n'y a pas eu de remise par rapport de commande. C'est un rapport de l'Institut. Non, moi je voudrais dire que la position de l'Institut à cet égard, elle est assez claire. Enfin, je crois que vous avez parlé tout à l'heure de transition énergétique. Bon, la transition énergétique, comme son nom l'indique, ce n'est qu'une transition par définition. On va vers un objectif cible. Et cet objectif cible, personne ne le conteste. L'objectif cible, c'est de diminuer les gaz à effet de serre. C'est de faire en sorte que notre mix énergétique soit décarboné. Donc cet objectif-là, il n'est pas négociable. Et le rapport, à aucun moment, ne le remet en cause. La question, c'est comment est-ce que nous allons y parvenir, puisque nous n'allons pas basculer d'un mix énergétique actuel à un mix énergétique tout de suite entièrement décarboné, et à quel prix ? C'est des questions très simples, hein. Vous savez, nous on se pose des questions extrêmement terre à terre, extrêmement pragmatiques. Alors, si on veut répondre à la première question, comment est-ce qu'on va y arriver ?
En exploitant les gaz de schiste.
On va y arriver, mais on va y arriver avec une nécessité tout de même, comme vous le savez, ces énergies sont intermittentes, hein, et il peut un jour faire très froid sans qu'il y ait de vent et sans qu'il y ait de soleil. Donc, on est obligé d'avoir évidemment dans le secteur de l'énergie ce qu'on appelle des BAC, c'est-à-dire des centrales conventionnelles qui permettent de prendre le relais en cas d'intermittence des énergies renouvelables. Or, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous utilisez le charbon, soit vous utilisez le gaz. Je rappelle que le gaz pollue deux fois moins que le charbon. Donc il y a une position qui est tout à fait pragmatique, qui consiste à dire c'est moins pire. C'est-à-dire il vaut
mieux
utiliser...
Vous prenez l'exemple américain en disant l'exploitation de gaz de schiste contribue à la transition énergétique américaine. C'est-à-dire
absolument.
Que ça permet, selon
absolument.
Vous, aux États-Unis,
absolument.
De remplir leurs objectifs de réduction d'émissions de CO2.
Ils se sont donné des objectifs qui sont moins ambitieux que les objectifs que l'Europe s'est donnés à elle-même. Mais en tout cas, effectivement, on voit bien, et pas simplement aux États-Unis, parce que je trouve que ce serait un peu biaiser le débat que de se focaliser sur les États-Unis. Les États-Unis.
Si ce n'est que c'est peut-être là qu'il y a le plus de retours d'expérience. Donc c'est ce qui permet. Même si les législations sont différentes, on va y venir d'ailleurs.
Voilà, le Royaume-Uni et le Danemark nous donnent aussi d'autres exemples. Mais en tout cas, on voit bien que le gaz, de manière générale, le gaz qu'il soit gaz naturel ou gaz non conventionnel, c'est une énergie qui peut effectivement au moins être une énergie de transition.
Sylvain Lapois.
Je suis parfaitement d'accord. Le gaz peut être une énergie de transition. Après, est-ce que le gaz fossile est la seule énergie de transition? Il y a des gros avantages, notamment pour le transport, notamment pour le stockage, vous l'avez dit. Les énergies renouvelables sont intermittentes et ne peuvent pas faire face à des effondrements de production solaire, éolien, marée moteur. Il y a néanmoins du gaz renouvelable aussi. Il y a un plan méthaniseur qui a été, par exemple, proposé par la ministre de l'écologie. C'est une façon de faire du gaz renouvelable, c'est-à-dire de récupérer du carbone ailleurs pour le rebrûler plus tard.
C'est-à-dire que l'exploitation, par exemple, des gaz de schiste, ça pollue moins qu'exploiter du charbon.
Oui, dans l'absolu, c'est vrai. Après, le problème, c'est que il y a quand même un moment où il faut aussi prendre en compte quelque chose, c'est que il y a un coût énergétique à l'exploitation des gaz de schiste. Il y a 10 ans, un équivalent baril de pétrole, ça pouvait s'extraire avec 2 barils de pétrole en termes d'énergie. Les gaz de schiste, les huiles de schiste, les sables bitumineux et toutes ces énergies-là, ça veut pour 10 barils d'équivalent pétrole, il en faut maintenant 5, 6, 7, 8. Donc quand on dit que c'est extraire beaucoup d'énergie, le problème c'est que le ratio finalement de l'énergie mobilisée pour extraire de l'énergie, il n'est pas si favorable que ça. Et quand on voit le cas extrême des sables bitumineux au Canada, on en est quasiment à 4 barils de pétrole pour en extraire 5. Autrement dit, on sort un baril en dépensant 4 ou on va chercher les 4 autres. Et c'est l'un des problèmes qu'on a avec les gaz de schiste, là encore en restant des considérations strictement énergétiques.
Oui, mais alors là, peut-être que Christine Le Bihan-Graff va vous répondre que les énergies renouvelables ont aussi un impact en matière de pollution. Je vais vous laisser vous exprimer, évidemment, Christine Le Bihan-Graff, mais je voudrais quand même citer cet extrait du rapport où j'ai mis plein de points d'exclamation. J'ai trouvé ça assez gonflé, mais bon, ça a le mérite d'être assez radical. Tous les pays développés suivent un objectif de transition énergétique. Un risque réel pèse donc sur la disponibilité des matières rares utilisées pour la fabrication des éoliennes et des panneaux solaires, ainsi que sur l'augmentation des coûts des matières de base. Pour limiter les coûts de construction, les opérateurs remplacent les tours en acier des éoliennes par des tours en béton, impactant ainsi lourdement le bilan CO2 de ces installations, qui en outre ne seront ni recyclables ni réutilisables. Là, vous allez presque jusqu'à dire que finalement, les énergies renouvelables, c'est bien pire que l'exploitation des gaz de schiste. C'est-à-dire que ça pollue aussi et finalement, on aurait peut-être plus intérêt à aller du côté des énergies non conventionnelles. Il y a l'effort quand même là.
C'est la force de la vérité, sans doute. Ce que je voudrais dire sur ce commentaire, pour lequel vous avez effectivement marqué vos points d'exclamation, c'est que l'idée du rapport, j'y reviens parce que c'était vraiment ça, hein, le but de cette équipe, c'était de dire n'opposons pas les énergies les unes aux autres. On aurait pu faire effectivement un petit exercice.
Là, vous le faites justement un petit peu.
Oui, mais en passant, vous n'avez pas un chapitre complet sur l'empreinte carbone de l'éolienne, sur le fait que quand vous allez un petit peu partout en province, et je conseille aussi des porteurs de projets en ENR, c'était pas le sujet. On n'a pas à choisir entre les énergies renouvelables et le gaz de schiste. Vous avez toute une partie de la population qui conteste l'empreinte, géographique, paysagère de ces ouvrages, etc. Donc rien n'est simple. L'idée n'était pas de faire un calcul de l'empreinte carbone de chacune des énergies, mais simplement de dire que dans une phase de transition, nous avons besoin de repenser la complémentarité des énergies qui sont mises au service des objectifs. Ce sont les objectifs qui comptent, et les objectifs, ils sont bien climatiques. Nous avons besoin du gaz comme énergie de transition. Et nous avons d'autant plus besoin du gaz, puisque vous avez posé là-ci tout à l'heure la question du prix, à laquelle je n'ai pas répondu, que sans se livrer à des calculs économiques de prix, dont vous savez que c'est des prévisions qui sont toujours démenties par la réalité, et effectivement, ce n'est pas quelque chose que fait le rapport. On constate simplement aujourd'hui déjà que le différentiel de prix entre le gaz américain et le gaz européen est de l'ordre de 3, hein, c'est 3 fois plus cher de se procurer du gaz en Europe que de l'acheter aux États-Unis.
Donc ça profite aux consommateurs américains en l'occurrence.
Ça profite beaucoup aux consommateurs américains, mais alors pas du tout aux consommateurs européens. Pourquoi ? Parce que le consommateur européen, il a une double peine. Il a une double peine parce que comme les États-Unis consomment évidemment ce gaz, ils nous exportent du charbon. Et donc la conséquence paradoxale de l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis et de notre refus de l'exploiter en Europe, c'est que nous subissons évidemment un mix énergétique de notre côté qui est de plus en plus carboné parce que nous avons recours au charbon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça dégrade la compétitivité prix, évidemment, de nos industries qui utilisent du gaz. Et la troisième chose, c'est que comme le charbon est pas cher, les centrales à gaz qui sont là pour soutenir le développement des énergies renouvelables ne sont pas rentables et qu'aujourd'hui, on les ferme.
Sylvain Lapoix.
Alors, puisque vous notez tous les matériaux qu'il faut pour faire une éolienne, je noterai tous les matériaux qu'il faut pour faire un puits de gaz de schiste. Un puits de gaz de schiste, c'est des kilomètres d'acier fileté. Vallourec en sait quelque chose, qui est aujourd'hui entreprise française qui fournit une grosse partie du tubage pour les gaz de schiste. Il faut énormément de béton. Là encore, Lafarge le sait, qui a construit une usine à Allenton en Pennsylvanie, juste pour fournir la surdemande. Ça fait une grosse demande en sable, ça fait une grosse demande en gomme de goire. Aujourd'hui, les gaz de schiste engendrent des shortages, des défauts d'approvisionnement et du coup une forme de spéculation, en tout cas d'augmentation des cours sur plein de matériaux de base. Donc ça me paraît un petit peu dingue de dire qu'un puits de gaz de schiste, sachant que pour exploiter une couche correctement il en faut des centaines, un puits de gaz de schiste consomme, je ne vais pas mettre dans une balance les matériaux de chaque côté, mais un puits de gaz de schiste consomme beaucoup plus de matériaux qu'un puits conventionnel du fait de cette fameuse technique de fracturation hydraulique et du forage horizontal également.
Oui, mais peut-être Sylvain Lapoix que ça consomme aussi beaucoup plus de matière humaine, c'est-à-dire que ça crée de l'emploi. Construire bâtir des sites d'exploitation de gaz de schiste, ça fait aussi partie des objectifs, j'imagine, qui sont recherchés parmi les partisans de cette exploitation, c'est de dire ça va créer des emplois. Alors là, est-ce que également le retour d'expérience permet de valider ou d'invalider cette idée?
Alors venons-y, le problème c'est que ça crée des emplois à la seule condition d'avoir un énorme turnover. C'est-à-dire que concrètement, le moment où les puits de gaz de schiste créent de l'emploi, c'est pendant le forage. C'est une période qui va durer quelques semaines, quelques mois, quelques semaines quand on est dans le Dakota du Nord et on va très 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 vite. Et là, effectivement, il y aura une équipe de foreur, il y aura du dispatch, il y aura des camions qui iront, qui viendront, etc. En activité courante, un puits de gaz de schiste aux États-Unis ou en Pologne, ça demande en gros un demi-poste quand il commence à produire. Donc finalement, c'est quand il commence à produire qu'il crée le moins d'emplois. C'est paradoxal. Et par ailleurs, il y a plein de gens qui disent, qui défendent les gaz de schiste en disant « Ah, mais ça crée des emplois qualifiés ». Aux États-Unis, quand vous êtes à Williston, dans le Dakota du Nord, les emplois qualifiés, vous les voyez arriver en avion depuis la Pennsylvanie, la Californie ou bien le Texas, parce que les foreurs, ceux qui sont vraiment payés énormément d'argent, ce sont des gens qui sont amenés en avion. Quand vous regardez en Pologne le développement économique social des gaz de schiste, c'est 10 gardiens de phare. C'est des gens qui font du gardiennage sur les plateformes. La plupart des gens qui forent aujourd'hui en Pologne sont des Américains. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, est-ce que ça va créer des emplois? Il y a un fameux monsieur qui s'appelle Bruno Courme, qui était l'ancien responsable des gaz de schiste Europe chez Total, qui disait il ne faut pas espérer beaucoup de création d'emplois, quelques milliers tout au plus en France.
Alors, ça crée de l'emploi ou ça n'en crée pas suffisamment, Christine Le Biographe, ou bien la question n'est pas là?
Moi, j'irais d'abord, la première question, c'est que ça peut permettre de sauver des emplois. C'est-à-dire, quand on parle de la compétitivité prix des entreprises, je pense qu'il faut quand même être conscient aujourd'hui que ce qu'on appelle les industries aval, c'est-à-dire les industries qui, en France, soit utilisent le gaz comme matière première, hein, pour fabriquer, par exemple, du plastique, soit utilisent le gaz comme source d'énergie, hein, toute la pétrochimie, qui est extrêmement consommatrice de gaz dans son process de production. Aujourd'hui, en France, ça représente 850 000 emplois. Et comme vous le savez, je ne vais pas refaire tout l'historique des rapports sur le choc de compétitivité. Comme vous savez, la France aujourd'hui, elle est confrontée à un risque majeur, qui est un risque de désindustrialisation. Tout le monde n'est pas ingénieur en France. Il y a des ouvriers. Et donc, la désindustrialisation, on a un premier enjeu qui est que cette désindustrialisation doit être stoppée. Donc, pour stopper la désindustrialisation, il faut effectivement restaurer pour partie la compétitivité prix de toute cette filière, sauf à considérer que l'économie française peut être une pure économie de service, qu'on n'a plus besoin ni d'ouvriers, ni d'entreprises, ni d'industrie. Ce qui n'est pas notre position. Donc déjà, l'enjeu emploi, pour nous, c'est un enjeu aussi de maintenir les emplois qui existent. Ensuite, on ne s'est pas livré, je vous l'ai dit tout à l'heure, à des calculs un peu compliqués. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, ça a créé des emplois aux États-Unis.
C'était le chiffre pour les États-Unis. 600 000 emplois directs, absolument, indirects et induits pour la seule année 2012.
Étude absolument. IHS, donc c'est très contesté, cette étude.
Oui, enfin, toute étude est contestée par définition. L'idée c'est pas d'être polémique. L'idée, c'est de se dire, si on crée une nouvelle activité, elle aura des impacts, évidemment. Là, vous parlez des industries amont. Elle aura un impact dans l'industrie amont, c'est-à-dire dans l'industrie pétrolière, les gens qui vont faire ces forages. Et comme vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs, de manière tout à fait pertinente, un forage, tous ces camions qui projettent de la boue, etc., ça dure tout au plus quelques mois. Hein. Ensuite, l'empreinte au sol d'un puits qui extrait du gaz de schiste, c'est beaucoup moins encombrant pour le paysage qu'une éolienne. Donc, ces emplois-là, effectivement, effectivement, ils sont créés en aval dans l'industrie pétrolière. Et après, en amont, il ne faut pas mésestimer le fait qu'au regard de sa réglementation, est très exigeante en matière d'environnement notamment, la France, elle a tout un ensemble d'emplois qui sont des emplois, là aussi, qualifiés, de surveillance, de la qualité environnementale, de traitement ou de retraitement des eaux usées, etc. etc. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas d'études sur ce que pourrait être de manière quantitative le nombre des emplois induits par l'exploitation des gaz de schiste, mais il est évident qu'il faudrait les mettre dans la balance.
Sylvain Lapoix, vous dites que l'exploitation du gaz de schiste a même contribué à relancer finalement, certaines activités comme celle du striptease.
Oui, alors c'est pour ça que je disais que c'était contesté, c'est que j'ai rencontré plusieurs think tanks américains, alors de toute obédience, hein, de toute préférence, mais notamment des gens qui ont plongé dans la méthodologie et dans les sources, et ils ont réalisé que le type chez lequel les foreurs allaient manger une pizza, eh bien, il était considéré comme emploi indirect, que le gars qui avait les carreaux de la pizzeria aussi, et que le pizzaiolo également. Et enfin, il y a également des emplois dont je parlais, donc des gardiens de phare qui font le tour sur quatre plateformes différentes, ce qui est un emploi, certes, c'est un emploi, je suis d'accord, effectivement, mais il faut voir si c'est ces emplois-là qui sont vantés par l'industrie. Et d'autre part, il y avait effectivement, dans ces calculs, la prostitution qui était prise en compte dans les créations d'emplois. Et il y a même des États dans lesquels il y a eu des réglementations spéciales par rapport à la prostitution du fait de ces afflux énormes de demandes. C'est ce qu'on appelle la malédiction hollandaise, malheureusement. C'est que le pétrole amène beaucoup de gens.
Rien à voir avec François Hollande, je précise.
Absolument rien à voir. C'est juste par rapport au gisement de Groningen de gaz et à l'impact que ça a eu sur l'économie batave, donc dans les Pays-Bas. Et en l'occurrence, c'est le fait que l'industrie pétrolière ou gazière amène avec elle énormément d'argent sur des zones extrêmement concentrées avec des personnes qui ont beaucoup de temps libre malgré tout et du coup qui dépensent leur argent comme ils peuvent, et quand on a beaucoup d'argent à dépenser dans un endroit très précis, on ne le dépense pas toujours de manière très légale.
Alors on ne sait pas très bien si ça profite ou pas l'exploitation des gaz de schiste aux travailleurs, ça crée de l'emploi ou pas, plus ou moins disons. Le consommateur aux États-Unis, il semble plutôt y trouver son compte, mais le consommateur européen lui pâtit plutôt de cette exploitation. Bon, il y a un autre acteur qui me semblerait intéressant d'évoquer pour savoir si lui aussi pourrait y trouver son compte, ou en tout cas y trouve son compte. Par exemple, je reste quand même sur l'exemple nord-américain, c'est le propriétaire. Alors est-ce que le propriétaire, il a tout à gagner si jamais il est propriétaire d'un terrain où il y a du gaz de schiste dans son sous-sol, à ce que l'exploitation soit engagée? Christine Le Biangraff.
Alors malheureusement pour les auditeurs qui nous écoutent et qui auraient espéré peut-être une réponse positive à cette question, la réponse en France c'est non, hein, parce que nous avons un système juridique qui est extrêmement différent du système américain. Enfin nous, je dis, c'est l'Europe dans sa totalité, pas simplement la France. Aux États-Unis, je suis propriétaire du sol, je suis propriétaire du sous-sol. Donc ce que j'exploite m'appartient. Je peux en déléguer l'exploitation, évidemment.
Jusqu'au plus profond de la croûte terrestre. Hein.
Absolument.
Voilà, on peut creuser, on est toujours propriétaire.
En Chine, si je veux. Mais en tout cas, je peux exploiter absolument. Et c'est pourquoi l'âge d'or des États-Unis, l'âge d'or du gaz de schiste aux États-Unis a provoqué des fortunes tout à fait colossales de particuliers qui avaient des terrains, évidemment, qui ont pu être exploités. En France, on n'est pas du tout dans la même logique. Puisque si vous êtes propriétaire d'un sol, si vous avez une petite propriété, le Code civil vous dit que vous êtes propriétaire du sous-sol, mais il y a une dérogation, et cette dérogation, c'est le droit des mines. Hein. S'il y a une richesse minière dans votre sous-sol, c'est l'État qui en est le propriétaire. Et j'ai envie de dire, c'est une vraie chance, ce système juridique. Pourquoi ?
Une chance pour qui ?
Pour nous, collectivement, parce que ça veut dire que c'est une richesse collective et que c'est l'État qui va l'exploiter et ce ne sont pas les individus qui vont, je dirais, alors allons-y, utilisons le terme, capter la rente et capter la valeur de l'exploitation. Et donc aujourd'hui, il nous semble que le vrai sujet derrière les discussions passionnées qui ont lieu sur le gaz de schiste, c'est plutôt aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait de cette rente et comment on la partage ? Comment on la partage ? Pourquoi ? Parce que justement, l'État a la possibilité aujourd'hui de se poser la question et de se dire, si demain je prends une décision qui est d'exploiter ces richesses, ce sont des richesses qui ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation privée, qui peuvent être exploitées évidemment par des exploitants privés, mais moyennant une rémunération de l'État, une redevance de l'État. Et c'est donc une richesse sur laquelle je peux réfléchir effectivement à son partage et à sa distribution. Et
oui, enfin, vous remarquerez... Vous parlez du partage qui bénéficie à la collectivité. Vous mettez quand même en garde justement les pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou nationaux, en disant il faut prendre en garde à ce que cette rente, alors éventuelle bien entendu, hein, générée par les gaz non conventionnels, ne soit pas totalement confisquée au profit des pouvoirs publics. Une partie substantielle doit pouvoir bénéficier aux entreprises.
Oui, absolument. L'idée, c'est bien...
Donc,
c'est
faut
bien
que ça profite à la collectivité, mais pas trop non plus, quoi.
Mais... Sauf, effectivement, est-ce que je n'ai pas compris la notion de collectivité ? Je pense que les industriels font aussi partie de la collectivité. En tout cas, l'idée n'est pas d'exclure qui que ce soit de ce partage. Deux remarques, si vous me le permettez. Ce qui me semble intéressant, et on n'a pas beaucoup parlé du prix de la transition énergétique tout à l'heure, j'y reviens. Envie de répondre à cette question, en fait, vous voyez, comme je suis. Je pense qu'il y a une première question, une première réflexion qui est très intéressante, c'est de dire que, de toute manière, cette rente, on peut en partie l'utiliser pour financer la transition énergétique. Des pays comme le Royaume-Uni et le Danemark sont des pays qui réfléchissent aujourd'hui à mettre en place des fonds dans lesquels, effectivement, on serait versé une partie de cette rente pour financer la transition énergétique et pour, effectivement, préparer ce monde décarboné que nous appelons tous de nos voeux. Vous savez qu'il y a un proverbe américain qui dit le monde ne nous a pas été légué par nos parents, il nous a été prêté par nos petits-enfants. Donc l'idée, c'est effectivement, c'est bien de préparer cet avenir-là. Et puis deuxième chose, c'est que les industriels qui font partie aussi de la collectivité, qui créent des emplois, qui exploitent un ensemble d'activités, eh bien eux aussi pourraient bénéficier d'une ressource sans doute moins chère que celle à laquelle ils ont accès aujourd'hui pour maintenir les emplois dont nous avons parlé, voire développer des technologies innovantes dont la transition énergétique a besoin, car la transition énergétique, elle est extrêmement demandeuse d'innovation.
Alors Sylvain Lapoix, Christine Le Bihan-Graff nous a expliqué que nous, Français, propriétaires d'un terrain éventuellement susceptible de donner lieu à une exploitation de gaz de schiste, nous ne ferions pas fortune, contrairement aux propriétaires américains. Est-ce que c'est ce que vous avez pu constater ? Vous avez un terme assez dur qu'on emploie plutôt pour les terres africaines, qui est celui d'accaparement des terres, avec des techniques en plus assez brutales, disons.
C'est-à-dire qu'aux États-Unis, effectivement, comme chacun est un peu son propre ministre des ressources naturelles, les propriétaires du sol ont été invités par des promesses mirobolantes, rarement tenues, ceci dit, notamment en termes de fourniture de gaz gratuite, notamment en termes de revenus, etc., à vendre leurs droits miniers.
Invités, vous êtes gentils, hein, parce que vous dites qu'il y a d'anciens militaires qui viennent, qui jouent sur la
des techniques
en disant
il ne faut pas raconter tout ce qu'il y a dans la BD, mais disons qu'il y a aussi eu des techniques qui relèvent effectivement de la guerre psychologique qui ont été employées par des anciens militaires d'Irak de façon à retourner des collectivités entières et à empêcher la législation qui aurait pu bloquer des accaparements massifs de droits miniers sur des zones importantes, parce que pour exploiter le gaz de manière efficace sur une zone importante, il faut s'accaparer un maximum de droits miniers. Mais leur fil, et moi ce que ça m'évoque de dire ça, c'est que alors certes le bien serait collectif partagé, mais quand vous dites qu'il faudrait que ça permettrait de financer la transition énergétique, le problème c'est qu'il y a aussi quelque chose que ça ne finance pas, c'est précisément, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le traitement des eaux usées, parce que l'un des problèmes c'est qu'aujourd'hui concrètement la principale pollution qu'on ne sait pas réduire, alors certes on sait moins de camions, plus de canalisations, etc. pour avoir moins de circulation, mais les eaux usées, celles-là, ces millions de litres de flotte qui ressortent viciées et également qui charrient des fois des contenus radioactifs, là c'est une personne de l'Institut français du pétrole qui m'a expliqué que les couches de schiste à l'époque étaient une réserve pour de l'uranium en Pennsylvanie, et bien quand on sort les gaz de schiste, on sort aussi de l'eau qui est radioactive, on ne sait pas la traiter, elle est trop polluée, donc on est obligé de la
stocker. Est-ce qu'on en a la certitude scientifique ça aujourd'hui ?
Ah bah oui, bien sûr, il y a eu des études qui ont été faites, et en l'occurrence, c'est quelqu'un de l'IFPEN qui m'a dit ça, donc monsieur Roland Vialet en l'occurrence. Le problème, c'est que cette eau-là, on ne sait pas comment la traiter. Donc si on peut.
Peut-être qu'on saura un jour,
sauf que pour le savoir, il faut investir dans ces techniques-là plutôt que dans la transition énergétique, et que, encore une fois, forer des puits, ça coûte extrêmement cher, et que est-ce que cet argent va bien aller là où on en a besoin pour passer à autre chose ?
Christine Bihan-Graff ? Sur ces questions d'eau usée et finalement de pollution, parce que. Après tout, on a assez peu parlé de cette question-là, qui est une question très récurrente, et on ne voulait pas faire toute l'émission justement sciemment là-dessus. Mais sur la pollution, c'est quoi ? C'est un défaut de maîtrise ou c'est lié vraiment à la technique et,
Écoutez, sur la pollution, moi j'ai relu dernièrement encore une étude, je crois qui n'est pas très contestable, qui est l'étude de l'Académie des sciences, qui est produite par l'Académie des sciences américaine, hein, qui dit que bon, la fracturation hydraulique, puisqu'on revient toujours à la question de la technologie, et on voit bien que c'est une question centrale, la fracturation hydraulique ne produit pas de pollution des nappes phréatiques. Hein, quand vous forez...
Je n'ai pas parlé des nappes phréatiques, j'ai parlé des eaux usées.
Je parle d'abord des nappes phréatiques. Quand vous forez le puits, faites passer effectivement un tuyau, il passe à travers l'ENA phréatique. Il n'y a pas d'études aujourd'hui sérieuses qui diraient que ces techniques provoquent des pollutions des nappes phréatiques. Et lorsqu'il y a eu des pollutions, c'est parce qu'il y avait un défaut du forage. En général, le puits était mal cimenté ou le tuyau du puits n'était pas étanche, etc. Donc c'est lié au forage et ce n'est pas lié à la technique qui s'exerce beaucoup plus profondément dans la terre, qui est la fracturation hydraulique. La deuxième remarque, c'est
que ce sera la dernière.
Je n'ai pas lu d'études montrant qu'on ne savait pas traiter les eaux usées et je crois au contraire qu'un certain nombre d'acteurs industriels, mais dont je ne peux me permettre de faire la publicité sur ce plateau, mais dont certains sont des champions français, savent, non, des entreprises françaises qui sont championnes internationales dans le retraitement de ces eaux, savent aujourd'hui parfaitement retraiter les eaux usées liées à l'exploitation des gaz de schiste. Et bon nombre d'entre elles ont déjà en Australie ou ailleurs des grands contrats qui démontrent ce savoir-faire à l'international.
Bon, bah, le mieux que je puisse faire, Christine Le Biangraff et Sylvain Lapoisse, c'est de renvoyer à la lecture de vos ouvrages respectifs. Gaz de schiste, comment avancer? C'est le rapport de l'Institut Montaigne que vous avez co-animé, Christine Le Biangraff. Énergies extrêmes de Blancou et Lapoix, Sylvain Lapoix, aux éditions Futuropolis. Ça vient tout juste de sortir, voilà, bah, deux lectures conseillées pour vous faire peut-être, sans doute même, une idée sur le sujet. Sujet que vous pouvez continuer à commenter sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Demain, les économistes français sont-ils meilleurs à l'export ?